Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, la victoire annoncée d'Alassane Ouattara à la présidentielle ivoirienne, le Conseil de sécurité qui déplore l'insécurité persistante au Darfour. Dans la région des Grands Lacs, la CIRGL exhorte les ex-rebelles du M23 à respecter leurs engagements. Le président Mahmoud Abbas invite, lui, le Conseil de sécurité à créer un régime de protection internationale des Palestiniens. Enfin, nous verrons comment la polio a été éradiquée au Nigeria.
Taux de participation, 54,63. Ont obtenu Alassane Ouattara, 2 118 229, soit 83,66%.
Ainsi parlait ce mercredi le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, Youssouf Bakayoko, une proclamation des résultats provisoires officiels globaux faite à 4h30 du matin, heure locale. En clair, le président sortant Alassane Ouattara est largement réélu. Pascal Affine-Guessant, arrivé en seconde position, n'obtient que 9,29% des 3 129 742 suffrages exprimés. Selon les différentes réactions glanées par nos confrères d'ONU-CFM, le scrutin semble s'être déroulé sans accroc. Un constat confirmé dès lundi au micro de la Radio des Nations Unies par Aïchatou Mindaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général en Côte d'Ivoire, qui avait alors félicité le peuple ivoirien. Nous reviendrons sur ces élections dans la page magazine. Le Conseil de sécurité s'est penché ce mercredi sur la situation dans la province soudanaise du Darfour, où la situation sécuritaire demeure précaire et imprévisible. Devant les 15, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix a indiqué qu'en dépit des signaux positifs envoyés par le gouvernement et le Front révolutionnaire soudanais, le niveau de méfiance entre les partis n'avait pas fléchi. Edmond Mulet a notamment parlé du boycott par les principaux groupes de l'opposition soudanaise du processus de dialogue national lancé le 10 octobre par le président Bachir. L'opposition est toutefois disposée à participer à Addis Abeba à une réunion pré-dialogue sous les auspices du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine. On écoute le sous-secrétaire général Edmond Mulet.
Une résolution générale du conflit au Darfour, permettant le retour chez elle de plus de 2,6 millions de personnes déplacées, nécessite en premier lieu un règlement politique entre le gouvernement et les mouvements armés. L'intention affichée par les partis de participer à des discussions sur la cessation des hostilités, ainsi qu'au dialogue national à Addis Abeba, est un premier pas louable dans cette direction. Il est d'une importance cruciale que ces réunions se déroulent dans les délais impartis et créent l'élan nécessaire pour de prochains pour parler direct et exhaustif sur le Darfour.
La conférence internationale pour la région des Grands Lacs invite les dirigeants de l'ex-M23 à rester engagés à maintenir l'esprit des déclarations de Nairobi pour apporter la paix et la stabilité en RDC et dans la région. Le secrétaire général de cette organisation sous-régionale, Tumba Luaba, a lancé cet appel mardi à Bujumbura. La CIRGL dit exprimer sa profonde préoccupation face aux positions exprimées par la direction de l'ex-M23 à travers son communiqué du 23 octobre dernier, faisant savoir qu'elle ne restera pas constamment liée par des engagements issus des déclarations signées en décembre 2013 à Nairobi. Les détails avec Noëlla Louzitou de Radio Okapi.
Dans son communiqué publié hier mardi à Bujumbura, le secrétariat général de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs informe le gouvernement de la RDC, la direction de l'ex-M23 et la communauté internationale que la question de la mise en œuvre des déclarations de Nairobi demeure une priorité des institutions de la CRGL. C'est dans cet objectif que la CRGL annonce la convocation le 18 novembre prochain à Kinshasa d'une réunion des ministres de la Défense de l'Angola, de la RDC, de l'Ouganda ainsi que du pays assumant la présidence de la SADC. De même, il est envisagé la tenue d'un sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement CRGL-SADC. La CRGL appelle les dirigeants de l'ex-M23 à continuer à être engagés et à maintenir l'esprit des déclarations de Nairobi pour apporter la paix et la stabilité en RDC et dans la région.
À Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, le président palestinien a appelé aujourd'hui à la responsabilité de la communauté internationale avant qu'il ne soit trop tard. Mahmoud Abbas a invité le Conseil de sécurité de l'ONU à créer immédiatement un régime de protection internationale pour le peuple palestinien. « Nous avons besoin de votre protection », a alors lancé Mahmoud Abbas, qui s'exprimait lors d'une réunion extraordinaire au Palais des Nations Unies à Genève. Alpha Diallo.
Je m'adresse au Conseil de sécurité de l'ONU en lui demandant plus urgemment que jamais de mettre en place immédiatement un régime de protection internationale du peuple palestinien. Lors de cette réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme ce mercredi, le président palestinien a appelé la communauté internationale à mettre fin à l'occupation. Et Mahmoud Abbas a justifié donc cet appel de Genève par la dégradation de la situation des droits humains dans le territoire palestinien. Cela requiert, à en croire le chef de l'exécutif palestinien, une intervention forte et urgente de l'ONU et de ses États membres avant qu'il ne soit trop tard. Venu transmettre un message d'espoir et de tolérance, le président palestinien a rappelé le désespoir profond, les pressions, le sentiment d'insécurité dans lequel vit la population palestinienne depuis des décennies. Ce sont là des facteurs qui exacerbent la frustration de la jeunesse et la poussent à se révolter. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Et puis ce samedi 31 octobre marque la journée mondiale des villes. En préambule à cette journée, plus de 60 experts dans le domaine de l'aménagement urbain et le handicap se réunissent au bureau des Nations Unies à Nairobi. Au cours des 3 jours à venir, ces experts examineront des solutions possibles pour rendre les villes plus accessibles à tous. Jean-Paul Honegger.
Plus d'un milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap et doivent faire face à des obstacles majeurs au quotidien. Ceux-ci existent sous forme de barrières physiques, tels des bâtiments et transports inaccessibles, mais aussi en raison de l'absence d'infrastructures adaptées aux besoins des personnes handicapées. Selon le docteur Aïssa Kaira Kiraba, directeur exécutif adjoint à ONU Habitat et ancienne maire de Kigali, il est impératif de trouver des solutions locales pour des problèmes mondiaux. Elle souligne qu'il faut élaborer des habitations, des moyens de transport et des structures qui ouvrent l'accès à tous. Les conclusions du forum contribueront à Habitat 3, la 3e conférence de l'ONU sur l'habitat et le développement durable, qui aura lieu à Quito, en Équateur, en octobre 2016. Cette conférence élaborera un nouvel agenda urbain qui guidera le développement urbain dans les 20 ans à venir.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et l'annonce ce mercredi de la réélection au premier tour d'Alassane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire. Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, Youssouf Bakayoko, a accordé un entretien à nos confrères d'ONU CFM quelques instants après donc la proclamation des résultats. Des propos recueillis par Ousmane Kanté.
Je crois que ce que l'on peut dire en premier ressort, c'est de dire que cette élection a donner satisfaction à l'ensemble des Ivoiriens. Chacun a souhaité des élections apaisées. Je crois qu'on peut dire que ces élections ont été apaisées. La deuxième chose, c'est que les Ivoiriens ont fait un choix par ce vote. La commission électorale, conformément à son mandat, a déclaré élu, ou en tout cas premier de cette élection, celui que les Ivoiriens ont décidé de mettre au devant des choses. Et je crois que c'est une leçon importante de savoir que la démocratie progresse dans notre pays et que les Ivoiriens comprennent et acceptent que la voix du peuple est une voix noble. Cela montre simplement qu'il y a eu beaucoup de progrès et que les Ivoiriens adhèrent à la démocratie. Troisième chose, je crois qu'on peut interpréter cela comme une volonté des Ivoiriens de voir leur pays se développer dans un climat stable du point de vue de l'économie, stable du point de vue politique d'une façon générale. Je crois que ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est les encourager à adhérer à la démocratie, défendre le système démocratique qui redonne le pouvoir au peuple et qui permet au peuple de désigner celui qui va gérer les affaires de l'État.
Alors, juste un commentaire sur le taux de participation que vous avez donc revu à la baisse, qui est donc de 54,63%. Alors, est-ce que ce taux vous satisfait ? Il est réaliste, étant entendu que certaines ONG qui ont observé ces élections avaient trouvé le taux de 60% qui avait été annoncé au début un peu plus élevé que ce qu'ils avaient observé sur le terrain.
Écoutez, la commission électorale vient de donner ces chiffres. Les chiffres qui sont sortis de nos délibérations. Et nous disons 54,63%. Ce sont les chiffres de la commission électorale. Les ONG font leur travail, mais nous, nous avons un mandat de rapporter ce que nous avons constaté. Nous disons, voilà le chiffre qui ressort de la consultation électorale. Moi, je ne peux pas dire que la commission a donné des chiffres qui sont revus à la baisse. Quand les chiffres ont été donnés, je crois qu'il faut toujours souligner les mots qui l'ont accompagné. On a dit que c'était d'abord des estimations. Ensuite, que ce chiffre pouvait varier. Donc, je crois qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que j'ai dit ce soir et ce qui avait été dit précédemment.
Alors, dans vos propos tout à l'heure, vous avez évoqué l'utilisation de la tablette dans le système de vote pour la première fois en Côte d'Ivoire. Est-ce que la tablette vous a aidé dans votre travail de validation, de compilation des résultats ?
Oui, j'ai dit que la tablette a un certain nombre de fonctions. La première, c'était de procéder à l'authentification de l'électeur. La seconde, procéder au transfert électronique des résultats. Eh bien, la tablette que nous avons utilisée, la tablette biométrique, nous a permis d'atteindre ces deux objectifs. Cela nous a permis d'avoir assez tôt les résultats. Mais nous travaillons par prudence avec les deux systèmes. Donc il nous a fallu premièrement les transférer, les résultats, jusqu'à Abidjan. Et puis deuxièmement, transférer aussi les procès-verbaux. Par mesure de prudence, nous avons comparé et c'est ce qui nous permet de dire que la tablette n'a pas été un échec.
Quelle est la prochaine étape maintenant que vous avez annoncé les résultats officiels provisoires globaux?
Nous transférons dès à présent au Conseil constitutionnel les chiffres que nous avons ainsi que les procès-verbaux. Cela nous est recommandé par le Code électoral. Et il reviendra au Conseil constitutionnel lorsqu'il aura reçu tous ces documents d'en faire bon usage.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a retiré cette semaine le Nigeria de la liste des pays où la polio est endémique, ce qui veut dire que ce pays a réussi à interrompre la transmission du poliovirus sauvage pendant 15 mois. Un succès d'autant plus remarquable qu'il y a quelques années seulement, le Nigeria représentait plus de la moitié des cas de polio recensés dans le monde. Isabelle Dupuis a contacté le docteur Machi Dizo Rebecca Moeti, directrice régionale pour la région africaine de l'OMS.
Vers 2012, la moitié des cas reportés par an dans le monde étaient au Nigeria. Je crois qu'à un moment donné, c'était presque le centre de cette épidémie de poliovirus. Les partenaires, même le gouvernement du Nigeria, étaient très inquiets qu'on n'allait jamais arriver à ce stade-là. Donc, c'est une très, très grande progrès que le pays a pu faire.
Mais pourquoi y avait-il tant de cas de polio au Nigeria?
D'abord, c'est un grand pays, c'est un pays très complexe. D'abord, ça dépend de la taux de vaccination des enfants qui était à l'époque faible au Nigeria. Il y a eu beaucoup de travail pour améliorer la situation et augmenter la proportion des enfants vaccinés. Puis, il y avait aussi dans quelques endroits au niveau communautaire beaucoup de résistance. Les parents ont refusé d'avoir les enfants vaccinés au Nigeria, surtout au nord du pays où il y avait quelques rumeurs et malentendements. Les parents étaient peur que le vaccin allait mettre en danger leurs enfants. C'était une forme de poison, etc. Il y avait une très forte résistance.
Dans d'autres régions du monde, il y a eu plusieurs informations circulant sur les attaques dont ont été victimes certains travailleurs de la santé qui lançaient justement des campagnes de vaccination contre la polio qui ont été attaqués et dans certains cas tués par des groupes islamistes. Est-ce que ça a également été le cas au Nigeria, notamment dans le nord du pays?
C'était le cas au Nigeria aussi. Et malheureusement, il y a quelques travailleurs de la santé qui ont perdu leur vie, qui ont été attaqués et même tués, comme ils travaillaient comme les gens qui donnaient le vaccin aux enfants. Et je crois que le gouvernement, leurs partenaires ont fait un travail remarquable pour engager la communauté, pour engager les leaders traditionnels, les leaders religieux, de trouver aussi des stratégies de travailler dans la communauté, d'identifier par exemple des femmes respecter dans des communautés, de parler avec ces gens-là, réussir à les convaincre que la vaccination est bonne pour la santé des enfants individuels et donc pour toute la communauté. Donc, il y avait quelques stratégies qui ont été mises en place pour arriver à avoir le vaccin accepté par la communauté.
Après l'éradication d'une maladie comme la polio, que doivent faire les pays pour éviter sa réapparition?
Bon, ils doivent continuer avec un système de surveillance très fort pour que s'il y a un enfant qui est paralysé, ça soit très rapidement suivi, investigué pour s'assurer que ce n'est pas le polio. Il y aura aussi quelques campagnes de vaccination qui vont continuer au Nigeria pour s'assurer que le poliovirus n'est pas réintroduit. Il est très important d'améliorer la couverture vaccinale avec le programme de vaccins routine pour s'assurer que tous les enfants sont vaccinés ou bien un taux très élevé des enfants sont vaccinés. Comme ça, nous allons améliorer le statut de l'immunité de la population. C'est vrai que le gouvernement doit continuer d'investir au programme de vaccination et au programme de contre le polio au niveau local, ce qu'ils appellent ici local government areas, au niveau des États et puis au niveau fédéral aussi. Et continuer à travailler avec les partenaires qui vont continuer à financer ces actions, travailler ensemble pour surtout s'assurer sur une très forte surveillance que nous ne venons pas derrière, de là où nous sommes maintenant.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.